Ça faisait tellement plaisir de voir des visages devant nous pendant qu'on enseignait hier matin, ou de voir les gens célébrer, ça faisait du bien. Merci Daniel, bon début de semaine à toi aussi. Bonjour Thérèse. 8h27. Tu es de bonne heure, Thérèse. Sois bénie. Hier, il y avait une atmosphère festive dans la salle. Les gens étaient heureux, je crois, de se retrouver pour célébrer le Seigneur. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Alors, qui sont les tous qui envoient les salutations? Je suppose la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. Mais s'il y en a d'autres, tu me dis, Rachel. Sois bénie et bien sûr que les sœurs qui sont connectées avec toi soient bénies richement aussi. Donc, si vous avez votre stylo, voici les deux choses que vous devez noter. Le numéro de téléphone de l'église, 514-273-8295. Je répète, 514-273-8295. Ou l'adresse courriel de l'église, qui est le secrétariat EAJC, en un seul mot et sans accent. Donc, secrétariat EAJC à commercial gmail.com. Donc là, vous nous indiquez le nom et le prénom de toutes les personnes qui veulent s'inscrire et vous nous donnez une adresse courriel ou un numéro de téléphone, voire même les deux, dans lesquels on peut vous contacter pour confirmer votre inscription pour dimanche. Et on vous rappelle que aucune inscription n'est valide à moins que vous ne receviez une confirmation officielle de la part du secrétariat de l'Église. Donc, ça va être dans quelques jours qu'on va vous rappeler. Pour l'instant, on prend les inscriptions. Alors, bonjour à Ocilia et bonjour à Mona qui t'accompagne, Rachel. Hello, Tante Luce. God bless you. So glad to have you with us this morning. Be blessed. Tante Luce qui est la tante de mon épouse. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Ça faisait plaisir de les voir hier, qui étaient là à l'église. Bonjour Charlotte, soyez bénie. Alors aujourd'hui, on approfondit certaines notions qu'on a étudiées durant l'assemblée d'hier matin. Donc, on approfondit ça tout au long de la semaine. Bonjour Julie, soyez bénie. Bonjour Didier, sois bénie. On était content de te voir hier aussi. Bonjour, qui d'autre? Non, tout le monde a été salué jusqu'à présent. Bonjour Denise, cette fois-ci Denise de Laval. Denise Gaudreau, soyez bénie, ma sœur. Alors, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Je crois que Nina veut prier avec nous. Donc, prions, élevons la voix. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, pour ce temps que tu nous accordes, pour étudier ta parole, pour plonger nos regards dans celle-ci et être nourris et abreuvés, Seigneur, par ta riche parole. Aujourd'hui, ouvre notre entendement. Pousse davantage, Seigneur, notre compréhension de ce que tu désires pour nous, de ce que tu attends de nous, afin que, Seigneur, nous soyons exactement les serviteurs, les servantes que tu désires que l'on soit. En toute chose, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour tes bénédictions que tu renouvelles matin après matin. Et surtout, Seigneur, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi, aujourd'hui, tout au long de cette journée, mais aussi, Seigneur, tout au long de cette semaine, et plus encore, Seigneur, jusque dans l'éternité, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on étudie cette semaine la même thématique qu'on a abordée hier pendant la prédication depuis 5 semaines maintenant. C'est ce qu'on fait. On prend la prédication du dimanche et puis durant la semaine, on l'approfondit. Et si vous êtes comme moi, vous y découvrez aussi d'autres notions que celles qu'on a énoncées une première fois lors de l'assemblée. Peut-être que c'est avec d'autres mots qu'on la présente, qu'on les présente. Et parfois même, c'est des notions qui n'ont tout simplement pas été abordées. Qui nous manque du temps le dimanche matin. Alors, en décortiquant la prédication sur 4 ou 5 jours, ça nous permet de revoir des choses importantes, de les ajuster à notre vie quotidienne et aussi d'approfondir la chose et de rajouter peut-être d'autres portées à l'enseignement dominical. Alors, voilà ce qu'on va faire ce matin. On va lire dans Lévitique, au chapitre 25, du verset 1 au verset 7. Puis on lira du verset 19 au verset 22. Ce matin, on ne va pas étudier l'ensemble de ce texte, mais comme c'est la première journée de la semaine, on va voir quand même l'ensemble du texte qui nous servira de méditation tout au long de cette semaine. Donc, Lévitique 25, tout d'abord du verset 1 au verset 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat, vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. » Et on va maintenant au verset 19. « Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. » Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne semons point et ne ferons point de récolte? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle vous donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que la nouvelle récolte, vous en mangerez de l'ancienne. Que Dieu bénisse sa parole. Je relis quand même pour vous les 3 premiers versets que nous avons lus aujourd'hui, qui vont servir de base textuelle à l'enseignement du jour. Donc, Lévitique 25, le verset 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Alors que Dieu bénisse effectivement sa parole aujourd'hui. J'ai mis un sous-titre à l'enseignement d'aujourd'hui lorsque je regardais les 4 points qu'on va voir ce matin. J'ai intitulé la chose « Pour bien commencer ». Ceux qui étaient là hier, vous avez compris à travers la prédication que l'enseignement qu'on a partagé va au-delà d'une question de culture agraire, va au-delà d'une question de, d'agriculture. On a parlé d'une pratique agricole qu'on appelle la jachère. Et on va y revenir régulièrement cette semaine, mais pas aujourd'hui. Mais juste pour vous expliquer ce qu'était la jachère, Dieu l'imposait de façon cyclique. La première année, lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, Dieu va dire, vous allez faire la jachère. Puis il va le dire, vous allez le faire à la septième année et à toutes les septièmes années. Et lorsque l'année du jubilé arrive, c'était comme une double jachère. On le faisait non seulement la septième année, mais aussi la cinquantième année qui représentait en fait le début d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'est la jachère? La jachère, c'est tout simplement de permettre à un terrain, à un lopin de terre, à un champ, pendant une période donnée, de ne pas être travaillé, donc de se reposer. C'est comme si vous avez un champ et vous dites, pendant l'année 2021, je ne travaille pas ce champ. Je le laisse tout simplement en friche, je le laisse tout simplement se reposer. Je n'irai pas enlever la mauvaise herbe, je n'irai pas labourer ou travailler la terre, je n'irai pas, si c'est une vigne, je n'irai pas tailler la vigne, je vais tout simplement la laisser tranquille, laisser ce champ tranquille pendant une période de 12 mois. Et la jachère est quand même une pratique assez régulière dans bon nombre de pays. On a appris les bienfaits de ce principe de la jachère. Lorsque le champ se repose, il en sort lorsqu'on revient à une agriculture normale avec les traitements habituels de terre qu'on tourne, de terre qu'on laboure, puis d'engrais, d'ensemencement, puis de récolte. Il en devient plus fort à cause de la jachère ou du repos régulier. Mais pour aujourd'hui, le texte qu'on voit, je pense qu'il y a un dénominateur commun qui revient régulièrement là-dedans, et c'est le commencement. Lorsqu'on a parlé de la jachère hier, et on va le faire tout au long de cette semaine, on a parlé d'une question de foi. Une question de foi, comme quoi Dieu va pourvoir durant cette année où on ne travaille pas, et durant l'année subséquente, dans laquelle on ne peut donc pas récolter les fruits de la précédente année. Et en fait, lorsqu'on calcule combien ça va prendre de temps, lorsqu'on arrête de travailler à la fin de la sixième année, non seulement c'est la septième année, c'est la huitième année, mais c'est aussi la sixième année dans laquelle on n'a pas de nourriture. Donc Dieu pourvoit tout au long de cette période. Mais rester là dans l'attente, ça impose de notre part une dépendance envers Dieu, donc une foi songée, une foi réfléchie, une foi délibérée, une foi consciente envers Dieu. Certains pensent que la foi est aveugle. La foi n'est pas du tout aveugle. La foi, c'est connaître Dieu et lui faire confiance, sachant qui il est et qui il dit être, et sachant que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. La foi n'est pas quelque chose où on s'aventure de façon aveugle. De toute manière, la Bible nous dit que la foi doit se baser sur ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'exercice de la foi doit se faire en accord avec ce que Dieu a dit, en accord avec ce que Dieu a mentionné. La croissance de notre foi vient par notre connaissance de la parole de Dieu, et qui connaît la parole de Dieu connaît par conséquent Christ, ou connaît par conséquent Dieu, puisque la Bible nous dit que cette parole est tout simplement la foi qui a été, la parole qui a été faite chair en Christ. Alors aujourd'hui, on y va depuis le début. Vous allez voir que c'est au-delà de tout simplement commencer un périple avec le Seigneur. Reprenons le verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et sur la montagne de Sinaï, il va dire, voici ce que vous allez faire lorsque vous rentrerez dans la terre promise. Lorsque vous allez rentrer dans Canaan, dans cette terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, et que je promets à l'ensemble du peuple d'Israël, voici ce que je veux que vous appliquiez. Donc, pensons un peu. La Bible nous dit que Dieu va parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Moïse n'est pas monté à plusieurs fois sur la montagne de Sinaï. Moïse n'est pas monté de façon cyclique sur la montagne de Sinaï. En fait, la rencontre de Moïse avec Dieu sur la montagne de Sinaï se fait au tout début du pèlerinage d'Israël. À peine sont-ils sortis d'Égypte, ont-ils traversé la mer Rouge, que Moïse va être appelé à monter sur la montagne de Sinaï, et c'est là qu'il va rencontrer Dieu, et c'est là qu'il va recevoir les ordonnances de Dieu, notamment les 10 commandements taillés dans la pierre par la main de Dieu. Donc, au début du voyage, Dieu veut instaurer dès le départ la notion de la foi. Avant même qu'il ne soit rendu à Canaan, Dieu veut instaurer la question de la foi. Pourquoi veut-il instaurer cette question de la foi? Il est en train de dire au peuple d'Israël, regardez, ça va prendre un certain temps avant que vous n'entriez dans Canaan. Mais lorsque vous serez entrés, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous ne cultiviez pas pendant une année complète le terrain. Pendant une année, je ne veux pas que vous travailliez la terre. Ce sera une année de repos, une année de sabbat en l'honneur de l'Éternel. Vous me consacrerez les 365 jours qui vont débuter votre entrée en Canaan. Alors, vous allez me faire confiance quant à la provision. Vous allez me faire confiance quant à l'installation dans le pays de Canaan. Vous allez me faire confiance quant à la conquête à laquelle je vous dirige ou vers laquelle je vous dirige. Je veux que vous ayez foi en moi et que vous dépendiez de moi lorsque vous arriverez à Canaan. Et Dieu ne leur dit pas combien ça va prendre de temps. En fait, c'est un voyage qui aurait dû prendre environ une trentaine de jours, mais on sait tous qu'à cause de la désobéissance d'Israël, à cause du manque de foi d'Israël, ils vont se promener pendant 40 ans, pèleriner, tourner dans le désert pendant 40 ans avant de pénétrer deux générations plus tard dans le pays de Canaan qui va plus tard devenir le pays d'Israël. Mais à la base, Dieu instaure donc cette notion de foi. Non seulement le pèlerinage, non seulement le voyage qui mène à Canaan allait demander de la foi, et régulièrement Israël a été challengé dans sa croyance en Dieu, dans sa fidélité envers Dieu, dans son engagement envers Dieu, dans sa foi et sa dépendance envers Dieu durant tout le pèlerinage, mais bien entendu, lorsque sous la houlette de Josué, ils vont finalement rentrer dans ce territoire, encore là, ils devront faire preuve de foi, d'une foi active. Pourquoi Dieu tient-il à parler de cette notion de foi ou d'inculquer dans la pensée et dans le mode de vie d'Israël? Pourquoi veut-il inculquer ça dès le départ? Le Nouveau Testament va être très très clair là-dessus. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je répète, la Bible nous le dit dans le Nouveau Testament, sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, si c'était effectivement le peuple de Dieu, si c'était effectivement le peuple à travers lequel le Seigneur voulait se glorifier et le peuple qu'il voulait utiliser pour sa gloire et pour sa bénédiction, il fallait donc que ce peuple, à la base, ait des pratiques de foi et une foi active et une foi décidée et convaincue envers Christ. Pour nous, en tant que croyants, nous devons aussi comprendre la foi est un élément primordial dans notre vie chrétienne. On ne peut pas croire à moitié en Dieu. On ne peut pas croire possiblement en Dieu. Soit on croit, soit on ne croit pas. Tu n'as pas une demi-mesure là-dessus. La foi se doit d'être quelque chose de convaincu. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. C'est une conviction du cœur, une profonde conviction du cœur. Ce n'est pas « Ah, aujourd'hui je crois, mais demain je ne crois plus. » Ou « J'ai cru pendant 10 ans, maintenant je ne crois plus vraiment. » Mais ça se pourrait qu'avec les années, je me remette à croire. La foi est une action, est une décision délibérée qui se maintient en dépit des circonstances et des situations. On se doit d'admettre qu'un voyage pendant 40 ans dans le désert, puis une conquête de plusieurs années où on va affronter des ennemis aguerris, où on va devoir s'emparer de villes fortifiées comme Jéricho, ça va demander, ça va engager en action notre foi. Donc on ne peut pas avoir dans notre périple chrétien, dans notre cheminement de vie, de croyants et d'enfants de Dieu, on ne peut pas avoir une demi-foi. Nous devons croire avec vigueur, avec assurance et avec conviction. Donc, dès le départ, on doit savoir que Dieu veut instaurer en nous la foi et que Dieu va se glorifier de la foi que nous témoignons. Donc, le premier point pour aujourd'hui, Dieu instaure la notion de foi dès le début de notre cheminement vers Canaan. Accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ça implique de la foi. Lui confier notre vie pour qu'il la transforme, qu'il la change et qu'il l'utilise, ça implique de la foi. Et si tu le fais avec une demi-foi, tu vas donc lui donner ta vie à demi. Si tu lui donnes ton existence sans la foi, c'est partiellement que tu vas t'engager envers lui, alors que Dieu veut quelqu'un, Dieu veut un homme, une femme, veut un enfant, veut un fils, une fille, un serviteur, une servante, qui est engagé avec toutes les fibres de son corps, de son âme et de son esprit, de son être, convaincu et engagé envers Christ. Donc Dieu instaure la notion de foi dès cette étape première qu'est la rencontre de Moïse au Sinaï. La deuxième chose, c'est que Dieu instaure cette foi-là 40 ans avant l'entrée en Canaan. Il y a des choses dans lesquelles Dieu nous prépare bien des années avant. Je vous citerai deux exemples rapidement. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais je sais pertinemment qu'un jour je vais aller prêcher en Chine. Depuis que je suis petit, j'ai un amour tout particulier pour la Chine. J'ai pleuré pour la Chine. Je me rappelle une fois où je croyais que ce désir-là était mort. On a eu un ministère qui est venu présenter un film chez nous. Et c'était un film sur l'œuvre de Dieu en Chine, l'œuvre de l'Église qu'on appelle underground, ou l'Église persécutée, cachée en Chine. Et tout était tranquille pendant tout le film. Je pensais que mon désir était terminé. Et le pasteur qui dirigeait cette rencontre, à la toute fin, dit « Bon, on va juste demander à Florent qu'il puisse prier pour remettre chacun entre les mains du Seigneur alors qu'on repart à la maison. » On avait fini de prier pour la Chine, on avait fini de prier pour les missionnaires en Chine et tout ça. Et là, j'élève ma voix simplement pour prier que tout le monde s'en aille en paix à la maison. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'étais incapable de m'arrêter. Et ce jour-là, j'ai compris qu'effectivement, Dieu avait placé quelque chose de spécifique dans ma vie. Mais ça, j'étais rendu à 18 ans ou 19 ans à l'époque, alors que ce désir vers la Chine, je l'avais eu à 8 ans. Bien des années plus tard, lorsque j'étais âgé d'environ 35 ans par là, j'ai eu même plus, 40 ans. J'ai eu le privilège de prendre un cours de mandarin. J'étais en classe, la prof nous enseignait les règles de grammaire et puis la langue chinoise. Et j'étais là, je l'écoutais, j'avais les larmes aux yeux. J'avais mon meilleur ami qui est chrétien, le frère Léonel, qui prenait le cours avec moi et qui me donnait des coups de coude, des coups de pied en dessous de la table en me disant, Florent, on est juste en train d'apprendre le chinois, calme-toi. Mais j'avais les yeux embués. Je ne sais pas quand j'irai en Chine, mais je sais que depuis des années, Dieu me prépare. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël depuis leur sortie d'Égypte. Dieu était en train de préparer les bases sur lesquelles l'établissement de la nation d'Israël se ferait dans la terre de Canaan, dans la terre promise. Donc Dieu veut nous préparer à la foi avant même qu'on arrive à l'époque où on doit l'appliquer. Dieu disait, voici ce qui va se passer quand vous rentrerez à Canaan, vous ne cultiverez pas la terre pendant la première année, vous me ferez confiance. Mais ça, c'était dans 40 ans. Mais Dieu était en train de préparer le peuple pour ce qu'ils auraient à faire 40 ans plus tard. Donc Dieu instaure les notions de pratique de la foi bien des années avant que tu n'aies à les appliquer. La Bible nous dit, si tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai aussi de grandes. Les petites choses demandent une foi mesurée par rapport au travail. Les grandes choses demandent par conséquent une foi encore plus grande. Dans ma pratique ministérielle, je me rends compte que Dieu a commencé à m'utiliser dans des petites choses qui ont grandi avec les années et les décennies. Et aujourd'hui, ce que je fais, je n'aurais pas été capable de le faire il y a 30 ou 40 ans. Lorsqu'on est venu au Seigneur, alors que j'avais 8 ans, et en fait j'avais 7 ans, et aujourd'hui j'en ai 42 de plus, mais ma foi a grandi à travers les expériences. Ma foi a grandi pour être prêt à faire face aux défis qui sont les miens aujourd'hui. Et les défis que j'ai pu rencontrer il y a 10 ans étaient tout simplement pour me préparer aux défis que je rencontre aujourd'hui. Donc Dieu veut instaurer la notion de foi dans ta compréhension, mais veut aussi préparer l'action de ta foi pour ce qui viendra pour le futur. Dieu l'a fait avec Israël et assurément Dieu veut le faire avec toi. Donc dans ce premier verset où on nous parle simplement que Dieu s'est adressé à Moïse à Canaan, les deux notions qu'on voit au tout départ, c'est que Dieu veut instaurer la notion, la connaissance de ce qu'est la foi dès le début du cheminement chrétien. Et par la suite, on se rend compte que Dieu veut installer, préparer la pratique de la foi bien des années avant que tu n'aies même à l'utiliser. Alors, demandons au Seigneur, oui Seigneur, continue à me préparer. Oui Seigneur, tu sais ce que j'ai devant moi, tu sais quelles sont les choses qui s'en viennent devant moi. Alors prépare-moi Seigneur pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Et Seigneur, fais en sorte de façonner ma foi, fais en sorte de travailler ma foi pour que ma foi puisse grandir, afin que je sois prêt face aux défis qui viendront devant moi dans un an, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, si Dieu nous prête encore vie d'ici là. Les deux autres notions qu'on voit dans ces deux, trois premiers versets du chapitre 25 de Lévitique, on les a mentionnées hier. Cette foi-là, Dieu est en train de dire, vous allez l'appliquer dès que vous allez rentrer dans la terre promise. Alors, non seulement on apprend la chose 40 ans plus tôt, non seulement on commence à être préparé pendant 40 ans à ce qui va arriver lorsqu'on rentre dans la terre promise, mais la première chose qui se fait lorsqu'on rentre dans la terre promise, c'est de faire confiance à Dieu. La foi met Dieu au début de toute chose. Lorsqu'on rentre dans une nouvelle étape, lorsqu'on accède à une nouvelle étape de notre vie de croyant, parfois c'est des changements qui se passent dans notre vie. Quelqu'un commence à travailler, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un se marie, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un devient parent, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un change d'emploi, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un devient grand-père, ou grand-mère, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un entre dans le ministère actif, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un commence à servir à l'église, c'est une nouvelle étape. Quelqu'un commence à prendre une responsabilité sur un groupe, sur un département dans l'église, c'est une autre nouvelle étape. Dans chacune de ces étapes, dans la progression même de notre cheminement avec Dieu, nous devons mettre la foi en action. Et la foi va mettre Dieu au début de toute chose. Qu'est-ce que Dieu demande à Israël lorsqu'il rentre à Canaan? Ne travaillez pas, ne travaillez pas la terre, ne perdez pas votre énergie sur le terrain pour la première année. Concentrez vos énergies, concentrez votre attention, concentrez tout ce que vous avez sur moi pendant un an. Dieu devrait être au début de tout ce que nous faisons. Dieu devrait être à l'essence même de tout ce que nous faisons. Avant même qu'Israël ne commence à cultiver, Dieu dit, je veux être là dans le début de votre périple à Canaan, dans le début de la conquête, mais de surcroît à cela, avant même la culture du terrain, je veux être placé avant. Et c'est quoi mettre Dieu avant? La foi fait en sorte que la priorité première du croyant devienne Jésus. Et ça, c'est une question pour toi et une question pour moi. Quelle est ta priorité dans ta vie? Et je le disais hier, même si régulièrement on confesse ou on professe que Jésus est notre priorité numéro un, soyons honnêtes, parfois c'est notre époux ou notre épouse qui va devenir la première priorité. Parfois ce sont nos enfants qui vont devenir la première priorité. Et on prend une espèce de philosophie chrétienne pour justifier cela en disant c'est mon premier ministère, c'est mon premier champ missionnaire, c'est ma famille. Mais soyons honnêtes, parfois notre famille devient priorité avant même Dieu. Avant même que je ne passe du temps dans la présence de Dieu, je m'occupe de madame, je m'occupe de monsieur, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mes parents, je m'occupe de ma fratrie. Régulièrement, la famille va prendre même position au-dessus de la priorité de Dieu. Deuxièmement, régulièrement, notre propre personne va prendre priorité sur Dieu. Je suis malade, donc j'oublie de prier Dieu, j'oublie d'étudier la parole de Dieu, j'oublie de me concentrer sur le Seigneur, et pendant un certain temps, je me repose, et quand j'arrive dans ce repos-là, je me dis, je suis en sabbat. C'est faux! La notion du sabbat n'était pas un repos pour soi-même, c'était un repos en l'honneur de Dieu. Le sabbat était concentré sur Dieu, pas sur notre propre personne. Aujourd'hui, on prend soi-disant le sabbat pour se concentrer sur nous. On prend le sabbat pour se reposer. Les gens, le jour du sabbat, oui, ne faisaient pas le travail qu'ils faisaient pendant les 6 autres jours, mais leur concentration était mise sur Dieu, pas sur leur propre plaisir, pas sur la sieste, pas sur le fait de se faire brunir la couenne au soleil, pas sur le fait de passer du bon temps. La pensée première du sabbat, c'était Dieu. On a aujourd'hui déformé la question du sabbat. On a aujourd'hui déformé la question du sabbat pour en faire une question de moi. Je pense à moi aujourd'hui. Je dois me reposer, donc je pense à moi. Le sabbat, ce n'était pas ça. Le sabbat, c'était, voici, je vais m'oublier, je vais oublier le travail, je vais oublier mes responsabilités et je vais me concentrer sur Dieu premièrement et essentiellement. Donc la foi met Dieu au début de toute chose et la foi met Dieu avant toute chose. Donc avant mon travail, avant ma personne, avant ma famille, avant les êtres aimés, je place Dieu en toute première position. Je vous ai déjà raconté qu'une fois, je suis allé assister à une conférence sur la gestion du temps et j'y suis allé à contre-cœur tout simplement pour encourager un ami qui organisait cette conférence. Mais j'ai été agréablement étonné que cette personne qui donnait la conférence ne tombe pas dans le cliché habituel de dire, ben voici, vous mettez Dieu en premier, puis après ça, vous vous mettez vous, parce que si vous vous mettez pas vous, vous ne pouvez pas prendre soin des personnes qui vous entourent. Et après vous, vous mettez votre épouse ou votre époux. Et après ça, vous mettez vos enfants. Et après ça, vous mettez votre travail. Et après ça, vous mettez vos amis. Et après ça, vous mettez telle et telle personne. Tout le temps dans une espèce de hiérarchie qu'on voit régulièrement. Et lui a dit clairement, il dit, regardez, ma conférence pourrait terminer en 5 minutes. Voici le secret. Vous mettez Dieu en tout premier. Et quand vous mettez Dieu en tout premier, c'est que vous vous concentrez sur lui, mais vous lui donnez effectivement la priorité sur toute votre existence dès que vous commencez la journée en disant, Seigneur, si tu veux changer quoi que ce soit dans cette journée, tu changes quoi que ce soit. Si tu veux changer l'ordre des priorités de cette journée, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et après avoir littéralement, mais véritablement mis Dieu au contrôle de votre journée, vous le laissez après ça dicter quelles sont les priorités. Et parfois, effectivement, il va dire votre épouse ou votre époux est votre première priorité, votre deuxième priorité plutôt aujourd'hui. Puis la troisième, ce sera vous. Puis la quatrième, ce sera vos enfants. Mais à l'occasion, le Seigneur va dire non, maintenant que tu t'es concentré sur moi, concentre-toi sur toi, parce qu'aujourd'hui, je veux que tu prennes soin de toi. Mais le lendemain, il pourrait dire, oublie l'épouse, oublie les enfants, parce que ma priorité pour toi, après ma présence, ma deuxième priorité aujourd'hui, c'est telle ou telle personne que tu ne connais pas, mais que tu vas rencontrer à midi, et je veux que ce soit cet inconnu qui soit ta priorité aujourd'hui. Et peut-être que le lendemain, il va dire, regarde, oublie toutes les autres préoccupations qui t'entourent. Ta deuxième priorité aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, lorsqu'on met le Seigneur en toute première priorité, il va nous conduire comme il a su conduire le peuple d'Israël dans la conquête. On est allé selon des indications ponctuelles que Dieu nous donnait et non pas selon une pratique qui devient plus une habitude, une ritournelle qu'on recommence jour après jour. Alors on y va avec ceci, puis on y va avec cela, puis on y va avec cela, puis on y va avec cela. Je comprends qu'en tant qu'humain, on aime vivre avec des habitudes, on aime vivre avec un certain plan, mais la foi, c'est aussi s'attendre à Dieu et laisser Dieu nous être au contrôle de notre existence en le mettant lui en toute première priorité. Alors la foi, qu'est-ce qu'elle va faire? La foi va faire en sorte que Dieu est mis au début et avant toute chose, au début de ta journée et avant toute autre chose dans ta journée. Voilà pourquoi peut-être la bénédiction matinale est si importante pour plusieurs d'entre vous, parce que c'est effectivement l'occasion que vous donnez à Dieu pour être au début de cette journée et avant toute autre chose dans cette journée. Dernier point, et je m'arrête par la suite. Au verset 3, il va nous dire que pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Il y a des gens qui parlent de la vie par la foi comme une vie, jusqu'à un certain point, nonchalante. Le travail devient pratiquement une question de péché. Regardez, Dieu va dire, tu me mets en premier, mais dans les 6 prochaines années par la suite, tu vas travailler. La foi, et je l'ai dit hier, n'encourage pas la paresse. La foi n'encourage pas la paresse. À la base, Dieu a dit à Adam et Ève, lorsqu'ils ont été expulsés du jardin dans leur condition de pécheurs, il leur a dit, à partir de maintenant, l'homme se nourrira à la sueur de son front. L'homme mangera son pain à la sueur de son front. Donc, le travail fait partie intégrale de la vie de tous les jours. Je fais cet aparté-là parce qu'on voit trop de chrétiens qui prétextent se concentrer sur Jésus et qui ne travaillent pas, qui prennent sous prétexte d'être concentrés sur Jésus pour plutôt exacerber une certaine paresse, plutôt pour mettre de l'avant une certaine paresse. Dieu veut se glorifier là où tu travailles. Et là où tu travailles, tu dois travailler bien, tu dois travailler de façon acharnée, tu dois travailler de façon dévouée. Dieu n'encourage aucunement la paresse, à moins que tu n'aies une condition particulière de santé, physique, mentale ou autre, à moins que tu n'aies ces conditions préalables de santé, quelles qu'elles soient, à moins que tu sois aussi dans un temps de recherche d'emploi. On sait qu'à travers la pandémie, plusieurs ont vu le travail cesser, à moins que tu ne sois dans de telles conditions, ton aspiration, et à moins que le Seigneur ne te dise, voici, je veux que tu travailles pour moi, voici, je veux que tu vives pour moi, à ce moment-là, Dieu doit aussi pourvoir pour toi. Le travail pour Dieu se fait même au travail. Tu es infirmière, tu travailles pour Dieu dans un hôpital. Une fois, j'ai lu un livre et c'est un pasteur qui venait de commencer dans un nouveau village, dans une nouvelle ville. Et puis, à un moment donné, il va voir son médecin et il se rend compte à l'hôpital qu'il y a une dame de l'église qui travaille là comme infirmière. Et lorsqu'il voit la dame qui est membre de son église, il dit, ma sœur, je ne savais pas que vous travailliez en tant qu'infirmière. Et elle a dit, non, pasteur, chut, faites attention, c'est pas ça. Je suis une chrétienne déguisée en infirmière. Donc, c'était une chrétienne qui pratiquait la foi, en Dieu dans son lieu de travail qui était l'hôpital. Donc, donne-toi à fond dans ton travail. Sois un exemple pour ton patron. Sois un exemple pour tes collègues. Comme quoi, tu n'es pas un paresseux, tu n'es pas une paresseuse, que tu honores aussi Dieu dans les fonctions que tu occupes auprès de ton employeur. Et ça, je pense que c'est une aparté qui était importante à mentionner. Dieu n'encourage pas la paresse. La foi n'encourage pas la paresse. La foi encourage un travail dévoué parce que je sais à qui j'appartiens, je sais pour qui je travaille, je sais qui je sers. Et la Bible me dit, faites toutes choses comme pour Christ. Donc, mon travail séculier, je dois le faire pour Jésus. Mon travail à l'hôpital, je dois le faire pour Jésus. Mon travail à la manufacture, je dois le faire pour Jésus. Mon travail pour la ville de Montréal, je dois le faire pour Jésus. Mon travail dans telle ou telle institution, je dois le faire parce que la Bible me dit de tout faire comme pour Christ. Alors, mon travail que je rends à mon employeur, si j'ai la foi en la parole de Dieu, si j'ai la foi en Dieu, alors mon travail, je dois le faire comme si je le faisais pour Christ. Je suis éducateur ou éducatrice en CPE, en garderie, en jardin d'enfants. Je dois faire mon travail d'éducatrice comme si je le faisais pour Christ. Oui, je sers un petit. Oui, je sers des parents. Oui, je sers une direction de garderie. Mais foncièrement, je sers Dieu en m'occupant de ses petits, en travaillant pour ses parents et en servant mon employeur. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La notion de la foi doit être au début de toute notre marche chrétienne, avant même qu'on entre dans Canaan, avant même qu'on ne parvienne à la prochaine étape. Dieu est déjà en train de nous préparer. Quand nous rentrons à la prochaine étape, la foi doit guider nos pas. La foi en Dieu doit être l'élément moteur de notre fonctionnement. La foi va mettre Dieu au début et avant toute chose. La foi va mettre Dieu comme priorité. Si Dieu n'est pas de façon factuelle ta priorité, c'est qu'il y a probablement un problème au niveau de ta foi. Et la foi n'encourage ni la paresse, ni ne décourage le travail. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse ce qu'on a partagé ce matin. Alors rapidement, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère dans le travail qu'ils ont à accomplir aujourd'hui. Bénis-les dans le cheminement qui est le leur. Rappelle-leur, Seigneur, et montre-leur de façon ponctuelle, de façon factuelle, comment, Seigneur, ils peuvent te mettre en toute priorité par rapport à leur existence, par rapport à leur vie. Guide-les aujourd'hui dans les priorités qui doivent être les leurs dans cette journée, dans ces 24 heures d'aujourd'hui, et que ta bénédiction, Seigneur, leur succède dans le chemin, Seigneur, que tu ouvres pour eux. Nous les bénissons en ton nom et nous appelons ta grâce sur leur vie. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Je remonte pour voir qui je n'ai pas salué. Voilà. Alors, si je vous ai déjà salué tout à l'heure, je ne répéterai pas vos noms, et si je ne vous vois pas apparaître, c'est que le nom, si je ne vous nomme pas, c'est que le nom n'apparaît pas malheureusement dans mon appareil. Donc, bonjour à Babette et à Andreas, bonjour à Jacques et à Jocelyne, bonjour à Tina et à Christophe. Bonjour à Argelia, bonjour à Willy, bonjour à Patricia Auffray de l'île Maurice, bonjour à Maggie, bonjour à Ramon et à Evelyne, bonjour à Janine Caron, bonjour à Nenji et à Jacques. Bonjour à Soraya, bonjour à Myriam et à Donald. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir avec le pasteur André, c'est le cours sur le livre des Actes. Soyez au rendez-vous, c'est à partir de 19h. Sinon, nous, on continue notre chemin sur la foi, sur le chemin de la foi demain matin à partir de 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous tout au long de la journée. Au revoir tout le monde.